Merci de nous retrouver sur Djoliba TV News et dans votre émission Le QG de l'actu, votre émission hebdomadaire que nous vous présentons tous les dimanches à 21h sur Djoliba TV News en synchronisation avec toutes nos pages digitales. Nous vous souhaitons ainsi la bienvenue dans ce énième numéro de votre émission dont voici les principales thématiques. Décès de Toumani Diabaté, l'icône de la Coura n'est plus. Oui, la nouvelle est tombée. Il est vendredi dernier, hein, comme est récupéré. Le grand maître de la Coura a tiré sa révérence, c'était le vendredi dernier, dans un des hôpitaux les plus huppés de Bamako, à l'âge de 58 ans. Nous allons essayer de rendre un hommage dans cette émission avec nos différents invités. Deuxième sujet de ce débat, parti politique, l'heure de vérité. Nous savons, après leur suspension, mais aussi la levée de cette suspension, les partis politiques avaient été conviés à une réunion avec l'EJ, laquelle justement invitation qu'ils ont honorée finalement, mais et en tout cas, on quand même soumis des doléances au cours de cette rencontre. Nous allons essayer de revenir sur cette actualité politique, mais aussi, faut-il le rappeler, une rencontre déjà avec les mêmes partis politiques qui est prévue pour la semaine prochaine, notamment pour se pencher sur l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Troisième et dernier sujet de ce débat, ministère de l'Agriculture double limousage. Oui, nous l'avons vu le mercredi dernier, le décret portant, qui a vu justement l'abrogation du décret portant nomination du ministre Lassine Dembélé, que vous voyez ici en image, mais aussi, nous avons vu dans la même foulée, l'actuel, en tout cas l'ancien, disons, directeur, le PDG de la compagnie malienne de développement pour le textile, qui a aussi été remercié dans la même foulée. Il s'agit de M. Nango Dembélé. Nous allons essayer de revenir sur ces différents sujets avec nos différents invités, dont M. Cheikh Oumar Soumano, il est le président de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, mais aussi coordinateur du baromètre. Bonsoir, M. Soumano.
Bonsoir, Omar. Bonsoir aux téléspectateurs de Djoliba TV du Mali et de la diaspora. Et bonsoir à mes co-débatteurs. Merci pour l'invitation.
C'est un plaisir, M. Soumano. Bienvenue. Le second invité de ce débat, Youssouf Sissoko, il est le président fondateur du groupe Alternance. Monsieur Sissoko, bonsoir.
Bonsoir Traoré et bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Djoliba TV News.
Bienvenue, Monsieur Sissoko. Troisième invité de ce débat, Idrissa Keïta, dénommé Idi pour les intimes, il est journaliste consultant. Bonsoir, Monsieur Keïta.
Bonsoir, cher ami. Content de retrouver l'audience de QG de l'actu qui m'avait beaucoup manqué.
Plaisir partagé, Monsieur Keïta. Bienvenue chez vous. Quatrième invité de ce débat, Abdallah Yattara, consultant formateur. Bonsoir, M. Yattara.
Consultant formateur, c'était pendant la suspension des activités politiques.
Maintenant, on change de casquette.
Non, c'est bon. Mais, pour blaguer. Donc, merci très bien pour l'invitation et salut mes co-débatteurs.
Merci à vous, Monsieur Yattara, d'avoir accepté aussi notre invitation. Oui, je disais dans les propos liminaires, le grand maître de la Coura, l'immense Toumani Diabaté, l'icône de la Coura, le grand maître, en tout cas, a tiré sa révérence le vendredi dernier à la suite d'une courte maladie, peut-on le dire ainsi, à l'âge de 58 ans. Toumani Diabaté, que vous voyez en image ici, dont le nom a franchi, en tout cas, les frontières du Mali. D'ailleurs, justement, il n'est plus de ce monde, en tout cas une perte énorme, si même peut-on dire, pour la culture malienne. Les funérailles ont eu lieu, pas plus que le samedi dernier dans sa famille à Bamako, ici. Monsieur Sissoko, oui, c'est un grand homme de la Coura qui tire sa révérence.
Effectivement, et permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses enfants, à tous ses proches. Vous l'avez évoqué, c'est une grande perte pour la culture malienne, pas que malienne, pour la culture mondiale. Parce que Toumani Diabaté, son nom, sa renommée avait pratiquement franchi les frontières du Mali, de l'Afrique, un peu partout. Et Toumani rappelle en tout cas une autre icône, et Ali Farka Touré, avec qui d'ailleurs il a fait beaucoup de choses ensemble. Et Toumani Diabaté, c'est franchement celui qui a, si vous voulez bien, mis en tout cas la Coura, qui est un instrument en tout cas mandingue, il a mis en tout cas cet instrument-là à un niveau tellement élevé qu'aujourd'hui en tout cas, on ne peut vraiment pas se passer de cet instrument musical. Donc la perte de Toumani, vous l'avez dit, c'est une perte énorme pour la culture malienne et pour tout le Mali entier. Donc je ne peux que m'incliner devant sa dépouille et souhaiter en tout cas que la terre lui soit légère.
Amine Yirabi, ainsi va la vie. Alors, monsieur Soumano, hein, avec tout ce que vous faites hors de nos frontières, j'imagine que vous avez certainement côtoyé l'homme hors de nos frontières. Qu'est-ce que vous retenez de lui ?
Merci bien déjà. Vous avez parfaitement raison parce que monsieur Toumani, Feu Toumani Diabaté, désormais, est lauréat baromètre. D'ailleurs, à juste titre, nous lui avons rendu un vibrant hommage dans notre plateforme dédiée au lauréat. Donc, j'estime que, moi j'ai indiqué à juste titre que. Il va nous manquer, mais c'est surtout son temps de gloire qui va manquer aux Maliens. Toumani, c'est un virtuose de la coura. À ce titre, il se conjugue avec la culture malienne. Et il fait partie du langage international de la culture malienne, parce que si on veut citer des hommes de culture au Mali, vous ne pouvez pas vous mettre à citer sans qu'au niveau du troisième nom, le nom de Toumani n'apparaisse. Donc ça veut dire que c'est un grand monsieur. Il est allé, je dirais jeune, parce que c'est un vieux, c'est un jeune vieux. Il n'a que 58 ans. C'est vrai qu'il n'est plus jeune, mais il n'est pas aussi vieux, donc c'est un jeune vieux. On aurait voulu qu'il reste longtemps avec nous, mais Dieu en a décidé autrement. Donc je joins ma voix à celle de mon prédécesseur pour lui rendre encore un dernier hommage, que la terre lui soit légère, mais on peut déjà dire qu'il a laissé à la postérité celui-là qui pourra emboîter ses pas, son fils, qui est Sidiki Diabaté, déjà... de mon point de vue, a déjà fait ses preuves. Donc je pense qu'il fait partie de ceux-là qui ont contribué au rayonnement de notre pays sur le plan culturel, aussi bien son père, lui et son fils. Donc à cela, il faut vraiment tirer chapeau à la famille Diabaté. C'est une grande perte. Il a été aussi Grammy Award, il faut le noter. Il a eu beaucoup de distinctions, non pas seulement celle du Mali. Je me rappelle le portrait qui lui a été fait par la chaîne nationale où on voit qu'il fêtait ses 20 ans. Et c'est un monsieur qui disait que jouer à la coura, c'était un art. C'était pas qu'on se lève, c'était vraiment un art. Et la manière, ses notes étaient vraiment assez angéliques, si je puis dire. Donc, vous voyez, je suis emporté par l'émotion, mais c'est vraiment pour dire que on est touché.
On est touché, tout le monde est touché par cette perte énorme. Oui, monsieur Yatara, hein, Toumani, nous l'avons dit, c'est un homme qui n'est plus à présenter, faut-il le rappeler. Si on devrait se mettre à parler de sa vie, on n'en finira pas avec cette carrière, en tout cas riche, hein, avec des différents trophées qu'il a concoctés. Et ça, et là, Toumani Diabaté, faut-il le rappeler, fils de Sidiki, Toumani Diabaté, père de Sidiki, dont le nom, en tout cas, fait penser... Hein, grand nom, en tout cas, musical de ce monde. Qu'est-ce que vous retenez, justement, M. Abdallah Yattara, de cet homme ?
Tout d'abord, permettez-moi de me joindre à mes prédécesseurs pour présenter à sa famille, dire et pleurer toutes mes condoléances, mais aussi au monde de la culture malienne et internationale aussi mes condoléances les plus attristées. Vous savez, Toumani, ce n'est pas uniquement de jouer la coura. J'ai suivi une de ses interviews où j'ai appris avec lui que la coura, c'était 22 cordes. C'était 22 cordes, mais après le décès de l'ancêtre de Kouyaté, on a enlevé une corde. Et c'est aujourd'hui, on est à 21 cordes. J'ai vraiment compris avec lui que non seulement il maîtrisait cet instrument-là, mais il connaissait aussi l'histoire de cet instrument-là, contrairement à beaucoup de musiciens. Et Toumani, avec sa mort, je crois que les 21 cordes de la coura ne chanteront plus les 7 notes de la musique, à savoir le do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mais aussi, il l'a dit, il est double Grammy Award avec Aliou Farka Touré. Ils l'ont eu en même temps, ils l'ont partagé. Ils ont été tous distingués avec la même musique puisqu'il accompagne Aliou Farka Touré. Et je crois qu'il n'a pas vécu inutilement. Il a laissé à la postérité aussi non seulement la coura moderne, mais aussi la relève vite assurée avec son enfant, son fils Sidiki Diabaté, qui aujourd'hui, à mon avis, c'est vrai, n'a pas encore atteint la dimension de Toumani, mais il est sur sa trace. Je crois qu'il se repose éternellement.
Ok, il repose éternellement en paix. Oui, M. Drissa, hein, M. Abdallah Yattara l'a signalé, la coura aujourd'hui hein, est orpheline justement avec ce décès de Toumani Diabaté. Il a rappelé tantôt hein, qu'il est double Grammy Award, on s'en souvient encore. Hein, c'est toujours dans nos têtes comme si c'était hier avec le titre In the Heart of the Moon, avec lequel titre avec lequel il a remporté son premier Grammy Award avec Alpha Katouré. Si vous devrez en tout cas dire un mot sur l'homme.
Tout d'abord, je présente officiellement et solennellement ma condoléance à toute la famille Diabaté. Toumani, je le suivais, il m'intéressait. On a parlé de l'album In the Heart of a Moon, où il a eu son premier Grammy Award, mais il était le deuxième Malien à avoir un Grammy Award. Et juste après cet album, qui a vraiment cartonné, parce que c'était une collaboration avec Ali Farka, ils ont carrément même créé un groupe, ils se sont mis ensemble, où ils ont produit ensuite un autre album qui s'appelait justement Ali and Toumani, qui a fait qu'ils ont eu le deuxième Grammy Award, qui était le troisième pour Ali, mais le deuxième pour Toumani. C'était un homme sans histoire, un homme très modeste et surtout très discret. Et évidemment, l'image qu'il a affichée, et quand on le voit, il ne parle que musique, que culture. Chez nos confrères ivoiriens de la NCI, où il présentait son dernier album qui est sorti en novembre 2022, à savoir Toumani Family and Friend, là, il disait qu'il a eu à faire 7 fois le tour du monde. Donc il a rencontré toutes sortes d'artistes, il a côtoyé toutes sortes de cultures, il a eu à faire toutes sortes de collaborations. Et je dis gloire à Dieu, parce que Toumani, pour des raisons familiales et autres, était un moment en Côte d'Ivoire, où il a fait près de 3 ans. Quelque part, le Covid, le confinement mondial, les frontières fermées l'avaient empêché de revenir. Il s'était établi là-bas. Mais depuis près d'un an qu'il est revenu au pays, la nation lui a reconnu son immense carrière. Il a quand même été décoré. Et ça, j'en suis très fier. Donc, pour moi, le Mali a perdu un grand homme. Encore que côté Koura, j'ajoute un dernier point rapidement. C'est que quand même, quand je prends la chronologie du succès du Koura, de la Koura, Toumani vient après Mori Kanté, hein. Parce que cette histoire de Koura, il y a 20 ans, 30 ans, c'était vraiment Mori Kanté qui était au devant de l'internationalisation, avec son titre Yeke Yeke et pas mal de choses. Mais j'avoue que quand Mori Kanté a commencé à baisser et à temporer, c'est réellement là que Toumani a commencé à émerger. Et comme on a dit, c'était lui le roi de la Koura et Sidi qui est appelé prince de la Koura. Pour ce qui est de son héritage, on sait que son fils Sidi qui joue bien. Je suis ceux de ceux-là qui pensent, même si parfois on me dit que ce n'est pas vrai, mais je suis de ceux-là qui pensent que son fils Bala est plus rodé que Sidiki. Mais reste que quand même, c'est Sidiki qui a toujours été son binôme. Et même lui aussi et Sidiki ont fait un album, hein. Toumani et Sidiki. Bon, maintenant, Sidiki, lui, il fait beaucoup de variétés. Est-ce qu'il va aller beaucoup dans l'acoustique? Parce que l'astuce que Toumani avait trouvée, il laissait Sidiki faire la variété. Mais les deux ensemble, ils faisaient des albums, dont cet album que j'ai cité. Okay. Et à travers ça, ils avaient aussi le festival acoustique. Donc, est-ce que maintenant, Sidiki va reprendre ça? Est-ce que la structure Djabaté Music pourra renouer le circuit? Reste que quand même, il a un héritage, okay. Il y a certaines choses qui sont là.
D'accord.
Et j'espère que vraiment, tout va bien se passer. Okay. Et de là où lui et Ali Farka sont, j'ai une pensée pieuse pour eux.
D'accord, une pensée pieuse pour eux. Oui, M. Sissoko, hein, la question de relève aujourd'hui ne se pose pas, hein, ouais. Comme dans beaucoup de cas, car on sait très bien que le prince de la Koura, comme l'a si bien rappelé M. Drissa, qui est aujourd'hui, hein, en tout cas, fait la fierté de tout le peuple malien, et même au-delà. Quel héritage? Comment faut-il justement faire pour essayer de préserver justement cet héritage que nous a laissé Toumani Diabaté?
Non, disons tout simplement que il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau parce que il y a déjà ses enfants, les deux enfants, Bala et Sidiki, qui sont quand même sur la trace, sinon sur les traces de leur père. Et en plus de ça, je crois que c'est pourquoi je dis qu'il a une dimension mondiale. Et quand tu as une dimension mondiale, c'est sûr que d'autres vont s'inspirer de son cas, de son exemple, de sa réussite. Donc je crois qu'à ce niveau-là, moi, je n'ai pas assez d'inquiétude à me faire. Parce que je me rappelle, Toumani, il a commencé quand même à bas âge, à très bas âge. Et surtout que la Koura est devenue pratiquement une tradition. Il paraît que Toumani doit être la 77e génération, quelque chose
71e comme ça.
71e génération. Ça veut dire déjà que c'est une tradition, c'est ancré déjà dans leurs valeurs, dans les valeurs culturelles de la famille. Et mieux que la famille, je crois que Toumani a pu quand même permettre, en tout cas, que en tout cas, la Koura la s'étende, en tout cas, au-delà du Mali, au-delà de l'Afrique et même un peu partout à travers le monde. Donc moi, je pense que son immense héritage sera en tout cas préservé et je suis sûr et certain que la relève sera bel et bien assurée.
La relève assurée, est-ce que c'est aussi votre regard par rapport à ça?
Bien sûr, je l'ai dit tantôt. Moi, au-delà de que la relève soit assurée, je souhaite que ces deux enfants qui sont cités, notamment Sidiki et Bala, puissent le dépasser d'ailleurs. C'est ça le souhait, en fait. Déjà, on est sûr qu'il n'y a pas... On va enlever de notre vocabulaire le fait qu'il ne sera pas remplaçable. Moi, je pense que Sidiki et Bala pourront déjà jouer
remplir la place, le vide qu'il a, j'allais dire qu'il a laissé, mais le souhait, c'est qu'on puisse, il puisse le dépasser. Et celui qui est très jeune a été mondialement connu. Bon, c'est vrai que, comme il a dit, lui, il associe autre chose, il chante, il est le lead vocal. Soumani qui s'est tout simplement resté à jouer sur la choral, mais avec une note assez, des notes très spéciales. Moi, je ne suis pas d'accord quand il dit que quand Moudi Kanté était là, que Siriki Toumani n'émergeait pas, ce n'est pas ça. Vous savez, dans la tradition des griots, il y a le droit d'aînesse, en fait. On n'aime toujours pas se comparer à son aîné. Et ce qui est important, si vous lisez, si vous écoutez un peu les archives, vous regardez les archives et que vous écoutez les interviews données par Toumani, la Koura, dans la tradition des Diabatés, parce que les Diabatés, en général, dans le monde des castes, c'est des gens qui jouent aux instruments. Qui, pour le tam-tam, d'autres le balafon, la Koura. Et la Koura a ceci de particulier, c'est quoi ? C'est qu'on se marie déjà à la Koura. Quand vous décidez d'être joueur de Koura, vous vous mariez à la Koura. Donc ça veut dire que ce n'est pas un instrument comme les autres. Voilà pourquoi on comprend que Toumani constitue la 71e génération. Et mieux, il y a de ces astuces qu'on lui a, que son père ne lui a pas données. Quand il avait commencé, avant d'avoir dépassé les 20 ans, il y avait des choses qu'il ne savait pas. Donc après les 20 ans, on lui a dit autre chose. Donc ça s'apprend. Et mieux, c'est un don naturel parce que, contrairement à son fils, Siriki, qui a fait l'ENA, lui, il n'a pas été à l'école. Donc, il n'a pas appris à jouer. C'est vraiment, il a appris ça sur le tas. Et le nomonyme de Siriki, qui est le père de Toumani, feu Siriki, qui a battu également, a aussi reçu comme ça. Donc, moi, je pense qu'il faut maintenant noter que la famille Diabaté, celle de Toumani, de Siriki, vont maintenant rester à jouer que la Koura. Parce que, comme je l'ai dit, les Diabaté, en général, dans notre tradition, la tradition griotique, c'est des instruments. Ça peut être le balafon, ça peut être le tam-tam. Et généralement, c'était même le tam-tam pour quelqu'un qui connaît l'histoire des Diabaté. Voilà.
Oui, justement, Idrissa, on va vous revenir. L'héritage de Toumani, comment faut-il faire pour le pérenniser rapidement?
Bon, moi, déjà, ce que j'avais à dire, si j'ai parlé de Moury Kanté, c'est une question d'époque. Moury Kanté, je parle de la Koura, justement. Moury Kanté est de très, très loin l'aîné à Toumani. Musicalement et mondialement, Moury Kanté a été connu à travers la Koura. Et même, il y a une anecdote. Moury Kanté, à un moment, s'est permis de créer la Koura électrique, se faisant même appeler le griot électrique. Il a été sérieusement sanctionné pour cela au niveau du mandé. Raison pour laquelle, à un moment, il a même dû tempérer, faire profil bas très longtemps. Toumani existait, mais ce n'était pas les mêmes époques. Moury Kanté est de la génération des Salif Keïta. Et Toumani était là, avait son talent, mais c'est vraiment... En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est avec Ali Farka que la visibilité est venue. C'est à partir au milieu des années 2000. Bien avant, il était là. Okay. Mais c'est vraiment à partir au milieu des années 2000 et à travers aussi le Grammy Award que vraiment, il a été connu. Le nom n'était plus étranger à qui que ce soit. Okay. Aussi, n'oublions pas que quelque part, il a beaucoup contribué à la carrière de Oumou Sangaré puisqu'il était le binôme de Ali Farka, hein, qui était carrément même un producteur à Oumou en son temps. Et aussi... Quelque part, la célébrité que son fils le plus en vue, Sidi Diabaté, a, Sidi Diabaté jouit de cette célébrité de par son père. Parce que pour qui se souvient, Sidi au départ, il faisait le rap. Parfois, quand je suis en Côte d'Ivoire, quand je dis que Sidi faisait le rap, les gens s'étonnent. Je dis, mais à un moment, son père a mis sur place Diabaté Ba Music. Il fallait pérenniser la Koura qu'il a encadré son fils et que Sidi en 2016, a commencé à être boosté. Et évidemment, il n'a pas trop coincé le petit qui fait de la variété. Mais par contre, l'héritage de Toumani, ce n'est pas que ses enfants. Toumani, leur famille est aussi en Gambie. Ils sont aussi originaires de Gambie. Et là-bas, c'est quand même vrai que c'est un paradoxe au Mali ici. Il y a la sœur de Toumani qui est métisse, qui s'appelle Sona Diabaté. Bon, Diabaté, là, c'est écrit Djorbaté en anglais. Qui a même aussi son fils, qui s'appelle Siriki. Donc, eux tous, ils ont donné le nom du papa. Et Sona joue exactement, textuellement, pas de variété. La Koura pure et dure. D'ailleurs, hier, elle a réagi et je sais qu'elle viendra ici. Et aussi, Sona aussi a créé une école en Gambie où on apprend les instruments, où on apprend aussi la Koura. Donc, je crois que l'héritage de Toumani Diabaté, il est là, au niveau de la famille. Il a même un frère, Mamadou Ba ou Kila, qui a aussi eu un Grammy Award qui est un peu passé inaperçu. Sinon, il a un frère qui lui-même est établi aux États-Unis. Je ne pense pas que ce soit le mari de sa fille. C'est un autre.
Okay. Lui aussi, il est là. Il a aussi eu un Grammy Award. Donc, pour moi, la Coura prend de l'ampleur. Et pour clore, j'oublie pas que quand Toumani était installé en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont redécouvert. Jusqu'à ce qu'ils lui ont donné même le titre de docteur Toumani Diabaté. J'ai dit qu'il était sur le plateau de nos confrères là-bas. Et là-bas, déjà, il faisait même des cours de Coura. Donc, en Côte d'Ivoire, tout à côté, qui vraiment n'a pas cette culture mandingue sur le Coura, il y a maintenant des adeptes de cette chose. Donc, c'est pour dire que l'influence de Toumani Diabaté, au-delà de son fils, il y a aussi une influence à travers la région et à travers le monde qui, je crois, se manifestera.
D'accord. Rapidement, pour finir ce chapitre-là, M. Abdallah Yattara, l'héritage de Toumani Diabaté.
Non, l'héritage sera vite porté, le flambeau sera vite porté par ses enfants. Peut-être plus haut même que le flambeau olympique, peut-être que ça ne plaira pas à mon ami. Plus haut que le flambeau olympique, les Jeux olympiques s'ouvrira très bientôt. Mais quoi, il a fait l'essentiel, qu'il a fait même de la Coura une industrie musicale. Et contrairement à beaucoup d'instruments, et je crois que vivement que ces enfants portent le flambeau de cet héritage-là, plus loin que Toumani l'a porté.
Très bien. Nous associons notre voix à celle de toutes ces personnes qui ont bien voulu, en tout cas, faire des témoignages sur Toumani Diabaté pour présenter nos sincères condoléances au nom de la rédaction à la grande famille Diabaté, puisse l'âme de l'illustre disparu reposer en paix. Ceci nous conduit au second thème de ce débat, sans forme de transition, parti politique, l'heure de vérité, peut-on le dire ainsi, après la suspension le 10 avril dernier. Après pratiquement trois mois, la suspension a été levée et les activités ont bel et bien repris avec cette invitation de l'organe d'élection des élections, à savoir l'autorité indépendante de gestion des élections, qui a justement organisé les partis politiques pour une rencontre. C'était le lundi et mardi dernier. Au cours de la rencontre, nous avons quand même vu que les partis politiques ont posé un certain nombre de points à toute éventualité de participer, en tout cas, aux différentes rencontres de l'EJ. Et nous avons vu en fin de semaine aussi le ministère de l'administration territoriale qui convie les partis politiques pour une rencontre autour justement de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. M. Abdallah Yattara, les activités ont repris, mais on sait très bien qu'il y a quand même un point d'achoppement.
Oui, effectivement, depuis la rencontre avec les partis politiques ont donné le ton. Et certains partis politiques, disons pas tous les partis politiques, surtout les partis politiques signataires de l'accord du 31 mars, qui ont demandé à ce que les 11 détenus soient libérés, donc pour qu'ils puissent reprendre les activités dans le cadre de concertation effectivement de l'EJ avec les partis politiques. Et je crois que pas plus tard qu'avant-hier aussi, Ousmane Youssoufi, le président de la commission chargée de la rédaction de la Charte de la paix, et pour la paix plutôt, à convoquer à travers le ministère de la Santé territoriale les partis politiques pour une rencontre le mardi. Bon, je crois que le ton est donné. Maintenant, jusqu'où vont aller les partis politiques, la question se pose. Est-ce que les partis signataires de l'accord du 31 mars vont, comme avec l'EJ, boycotter aussi avec Ousmane Youssoufi Maïga? La question se pose à ce moment. Moi, je l'ai dit, le fait d'accompagner, d'être solidaire avec ces 11-là, ce n'est pas une question de politique, c'est une question, à mon avis, d'éthique et de morale. Quand vous commencez le combat avec des personnes et que ces personnes se trouvent incarcérées pour la même cause, ce n'est pas la peine de reprendre ces activités tant que ceux-ci ne seront pas élargis. Et je crois que le gouvernement doit comprendre dans ce sens. Le décret a été abrogé. Mais comme je l'ai dit, ils sont un peu spécialistes dans ce qu'on appelle la rétroactivité des lois. C'est-à-dire qu'ils vont dire que non, c'est des faits qui ont été commis pendant que le décret n'avait pas été abrogé. Donc la justice fait son chemin, quoi. Mais je crois que pour un climat apaisé et pour un climat pour une sorte de retour à la normalité, je crois qu'il serait bon de les élargir pour que tous ensemble on puisse accompagner le gouvernement, qu'on puisse accompagner la transition et vers le retour de la paix.
D'accord, oui, M. Soumano, les activités ont repris, mais nous savons très bien qu'elles butent à certains obstacles, notamment les partis signataires du 31 avril, c'est ça, le 31 mars, voilà, qui pose des conditions, en tout cas par rapport à leur participation à l'EJ, cette activité qui s'est passée la semaine dernière. Est-ce que peut-on penser que c'est la même attitude que les partis politiques vont adopter au cours de la rencontre qui est prévue en début de semaine aussi?
Oui, tout porte à croire que les partis politiques risquent de réitérer la même doléance au ministre de l'administration territoriale. Sauf que moi, j'ai une observation. Pour moi, je suis contre la politique de la fait chaise vide. Vous savez, quand vous prenez l'histoire politique malienne, du temps du Copo où c'était très chaud, tendu entre l'ADEMA et puis le parti de l'opposition, excusez-moi. La politique de la chaise vide qui a été adoptée n'a pas porté. Parce qu'on a tendance à dire en pareille situation que tout ce qui est fait derrière vous est fait contre vous. Et cela aussi va ouvrir d'autres fronts. Donc voilà pourquoi moi j'estime qu'on peut être présent et poser ces doléances. Demander, c'est normal. Le fait d'être allé pour la première fois, d'ailleurs je salue ce côté républicain des uns et des autres, ils ont accepté de partir, ils pouvaient ne pas aller, mais ils sont partis quand même. Et après, ils ont écouté, ils ont dit, bon voilà, nous souhaitons que nos camarades soient élargis. Comme il l'a dit Abdallah, ça c'est normal. On veut comprendre que c'est une question de solidarité. Vous savez, la question pour moi, si on se met dans une logique d'adopter la politique de la chaise vide, on n'en finira pas. Parce que le chronogramme même que les uns et les autres souhaitent avoir très rapidement pour qu'on ait à des élections, on ne pourra pas parce que pour en discuter, il faut que vous soyez là. Donc voilà pourquoi j'ai dit le fait d'aller vers le boycott, parce que finalement, c'est la lecture qu'on pourra faire de cette doléance qu'ils ont portée en disant, ben voilà, on vient vous écouter, mais nous ne pourrons pas continuer tant qu'il n'y a pas ça. Et en cela, je salue la réponse très sage du président de l'Aige. Il disait que ça ne relève pas de ses compétences. Et ça, c'est il a raison. Parce qu'il le dit en tant qu'avocat, quand même. Il est avocat, homme de justice. Mais par ailleurs, il est également président de l'Aige. Donc, il leur a dit, si peut-être il avait les moyens et qu'il avait effectivement les prérogatives, il aurait accédé à ça. Mais bon, comme malheureusement, ça ne relève pas de son ressort, il a rappelé. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent que lui, il est de bonne foi. Voilà. Donc, le fait même de les avoir invités, il a considéré que c'est des acteurs incontournables pour le dialogue politique. On ne peut pas arriver à une refondation, on ne peut pas arriver à l'établissement d'un chronogramme tant souhaité par eux, les membres du parti politique, tant qu'il n'y ait pas ce dialogue-là. C'est vrai qu'il y a entre-temps cette situation qui crée un peu le malaise, je dirais, mais je pense que tout peut se résoudre dans la discussion, parce que le problème, c'est que le dossier est judiciarisé. Donc, d'une part, si on ne fait pas attention, ça peut aussi remettre en cause l'un des principes qui est cher à tout républicain, qui est l'indépendance de la justice. Parce que c'est vrai que le président, effectivement, en tant que premier magistrat de la République, a ce qu'on appelle le pouvoir de grâce. Mais sauf que le pouvoir de grâce n'intervient qu'après condamnation. Bon, ensuite, il y a, pendant la procédure judiciaire, il y a aussi la possibilité pour le procureur qui poursuit ou le juge d'instruction, selon un principe qu'on dit l'inopportunité de poursuite, aussi d'arrêter les poursuites. Mais dans cela, ce n'est pas c'est technique. Donc voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut que les uns et les autres aient à l'idée ces deux principes-là, ne pas mettre à mal le principe de la séparation de justice en demandant justement à l'exécutif de mettre la pression ou de s'immiscer dans la chose judiciaire. Voilà pourquoi j'estime qu'il faut que les choses se fassent dans les règles de l'art.
Très bien. Il dit, après justement la levée des suspensions des partis politiques et justement l'invitation de l'Aige de partir à prendre part à une rencontre, beaucoup de Maliens avaient pensé qu'on s'acheminait vers une éventuelle organisation des élections. Mais on nous apprend que c'est en tout cas dans la perspective en tout cas de prendre part aux différents, à l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Est-ce que c'est cette idée qui a motivé justement la levée des suspensions des activités des partis politiques?
Il faut savoir que depuis 3 mois, le Mali est au cœur d'un bras de fer entre la classe politique et le pouvoir. Et c'est justement cette classe politique, partie signataire du 30 mars, qui est en fait l'opposition de la transition.
31 mars.
31 mars, autant pour moi, qui sont les membres de l'opposition. Ce sont ceux-là qui se sont servis d'une tribune pour, si vous voulez, faire un buzz. Parce qu'en allant à la rencontre de l'autorité indépendante de gestion des élections, les braqueurs étaient fixés sur cette tribune. Et ils ont profité justement de cette tribune pour donner de la voix. Puisque depuis la décision même de suspension des activités politiques, tout est parti de là. Ils avaient d'abord boycotté le dialogue intermalien et la situation était tendue. Et finalement, on s'est retrouvé avec des leaders qui ont été mis aux arrêts. Qu'ils aient été mis à tort ou à raison, la question n'est pas là-bas, mais depuis quand même plus de 3 mois, il y a des divergences poussées entre les tenants du pouvoir et, les partis politiques. Notamment ceux d'opposition. Donc,
c'est de l'opposition. Est-ce que cette transition connaît des oppositions?
Évidemment. Moi, je le dis toujours, quand un militaire renverse une majorité au pouvoir, ils ne seront pas là pour applaudir pendant la transition. Ils seront forcément opposés. Et ces partis-là sont des partis qui maintiennent ligne dure. Ce sont bel et bien des partis d'opposition. Sinon, le mouvement Ambiko, le collectif pour la refondation du Mali, l'AREMA et j'en passe, sont les partis de la majorité. Donc, on est dans une situation où il est mis au milieu ces leaders-là dont la situation est désormais judiciarisée. Parce que quels sont les griefs atteintes à la sûreté de l'État et tentatives de déstabilisation? C'est en tout cas ces deux griefs. Donc cette fois-ci, comme l'a dit Cheikh Oumar Soumanou, il faudrait éviter de mettre une certaine pression, une certaine influence sur l'appareil judiciaire. Mais moi, je suis de ceux-là qui pensent que, sincèrement, il faudrait, dans une logique d'apaisement, et libérer ces acteurs-là pour que le dialogue puisse reprendre. Les élections, quand même, je ne pense pas qu'elles soient actuellement d'actualité. Parce que déjà, le dialogue intermalien a dit qu'il faudra aller de 2 à 5 ans de transition. Or, il est bel et bien écrit dans la Constitution que les élections se feront en fin de transition. Donc, la transition même continue, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir, sur la base du dialogue. Mais la seule certitude que j'ai, c'est au niveau de l'AES. L'AES, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a déjà une présidence tournante de 1 an. Donc moi, je suis de ceux-là qui pensent que tant que ce 1 an-là n'est pas complet, la question d'élection ou autre chose ne sera pas dite.
Très bien. Rapidement, M. Chissogou, les partis politiques longtemps décriés, longtemps vilipendés, refont surface avec justement la levée des suspensions de leurs activités. Peut-on en tout cas penser que ces acteurs politiques sont incontournables pour la bonne marche de cette transition?
Non, clairement. Clairement, ils sont incontournables. Mais moi, je me fonde même à dire que les autorités ont levé même la suspension des activités des partis politiques. C'est parce qu'elles ont senti véritablement le besoin, en tout cas, de voir ces acteurs-là jouer pleinement leur rôle. Parce que nous venons, je me rappelais ça à chaque fois, nous venons d'adopter une nouvelle constitution, qui est une constitution démocratique, et qui est une constitution qui consacre une large part, en tout cas, aux activités des partis politiques. À toutes les formes de liberté, liberté d'opinion, liberté d'association, en tout cas liberté d'expression, etc. Donc il n'y a pas de raison quand même qu'on batte tambour et trompette pour en tout cas saluer l'adoption d'une nouvelle constitution et qu'à l'application on soit en tout cas les premiers, en tout cas les premières, si je veux parler des autorités, les premières à violer cette même constitution. C'est quand même contradictoire. Je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Il faudrait quand même que tout le monde comprenne cela. Et je suis sûr et certain que c'est parce que les autorités sont contraintes, en tout cas, d'élargir ou de faire en sorte que les activités puissent en tout cas reprendre, qu'elles ont levé en tout cas la suspension des activités des partis politiques. Maintenant, pour revenir à la rencontre avec l'EJE, justement, donc moi, je dirais plutôt que, bon, l'EJE, le président de l'EJE est dans son rôle parce que, au cours de cette rencontre, pratiquement, ce qu'il a dit, effectivement, c'est son rôle, le rôle qu'il doit jouer, qu'elle doit jouer, en tout cas, dans les élections à venir. Dire que le fichier électoral est en finalisation, etc., que les conditions techniques, les conditions logistiques sont réunies pour aller aux élections. Je crois que l'EJ est dans son rôle. Maintenant, est-ce que l'EJ peut, en tout cas, faire en sorte que ces acteurs-là, qui sont quand même incarcérés, puissent être libérés? Je crois que le président de cette institution a déjà tranché la question. Il dit clairement qu'il n'a pas cette compétence, il n'a pas cette prérogative. Maintenant, est-ce que les autorités aussi vont laisser les choses continuer comme ça, sans pouvoir en tout cas apaiser véritablement? Parce que c'est vrai, en levant la suspension, je crois que c'est un pas de géant quand même qui a été franchi vers l'apaisement, mais ça ne suffit pas. Puisque imaginez qu'on organise en tout cas les élections, ou même qu'on fixe la date des élections, sans qu'il y ait en tout cas un large consensus. Et je crois qu'il ne peut pas y avoir de consensus en dehors de ces partis qui sont aujourd'hui dehors. Parce que je le dis comme ça, parce qu'ils sont venus juste à la réunion pour en tout cas protester vigoureusement contre l'arrestation de leurs camarades et demander la libération. Et ils ont posé comme condition justement la satisfaction de cette doléance pour quand même pouvoir continuer les autres activités. Donc je pense aujourd'hui, j'en appelle en tout cas au bon sens des autorités pour qu'elles comprennent aujourd'hui que pour aller à des élections apaisées, inclusives, et que les résultats au finish en tout cas ne puissent pas être contestés, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité, beaucoup plus d'implication de tous les acteurs. Sinon, à ce rythme-là, j'ai peur je perds et je perds encore, que, qu'en organisant les élections en dehors de ces grands partis-là, okay. on va s'installer durablement dans une crise post-électorale. Et ça, c'est l'instabilité chronique qui va quand même continuer au Mali.
Dieu nous en préserve. Oui, M. Soumano, vous n'avouez pas hein, la politique de la chaise vide, des choses que vous déconseillez fortement aux acteurs politiques en ces temps qui courent. Alors aujourd'hui, s'il y a une attitude que ces partis politiques devraient adopter, quelle serait l'attitude la plus, en tout cas, plausible qui s'offre à eux?
Oui. Pour moi, déjà, le problème, c'est quoi? C'est que la question de la de l'élargissement de ceux qui sont mis en cause, je profite d'ailleurs de ce pour leur témoigner toute ma solidarité, parce qu'on a quand même un camarade dedans qui souvent anime le plateau là, dit non, je lui témoigne tout mon soutien. Moi, je dis, ce n'est pas une bonne chose, parce que je l'ai dit, quand vous prenez l'histoire politique du Mali, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Il a rappelé même le dialogue intermalien. Mm-hmm. Et avant ça, il y a eu aussi, c'était quoi, le déni, c'est ça mm-hmm. Voilà, donné avant ça, non, c'était l'exercice national également. À chaque grand rendez-vous à NR, il y a eu souvent le boycott. Mais ça a donné quoi? C'est que finalement, souvent, certains même qui étaient à l'origine du boycott ont été les premiers acteurs pour d'autres rendez-vous. Donc pour moi, ça ne paye pas. Et ensuite, les décisions qui seront prises. Parce que qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ce n'est pas parce que vous boycottez une tribune pareille que les recommandations qui vont en sortir, après vous allez dire « je ne me reconnais pas dans ça » parce que souvent, ça peut s'imposer à vous. Donc mieux vaut déjà être là pour prendre part au dialogue et faire part justement de ces observations sur la conduite des choses. Mais qu'à cela ne tienne, je ne condamnerai pas par contre le fait qu'ils exigent l'élargissement des camarades. Mais je dis il faut le faire en bonne intelligence parce que si d'aventure on venait à mettre la pression l'exécutif sur les judiciaires, moi je suis contre ça parce qu'il y a quand même le pouvoir judiciaire, il n'est pas. Le dossier à cette date est judiciarisé avec des chefs d'accusation. D'accord. Maintenant, pour moi, il y a une possibilité parce que le procureur ou le juge d'instruction ont, au nom de notre principe, dont eux seuls ont le jugement, qui s'appelle l'inopportunité de poursuite, de classer le dossier sans suite. Donc, en ce moment-là, il n'y a pas besoin de dire que l'exécutif qui s'est immiscé dans la gestion judiciaire, parce que ça peut frustrer aussi les magistrats. Okay. Et pour moi, je crois que quand on est dans une recherche de consensus et qu'on est dans une refondation poussée, il faudrait éviter que des pouvoirs puissent s'immiscer les uns dans les prérogatives des autres. Voilà.
Très bien. Rapidement, M. Abdallah Yattara, parti politique, l'heure de vérité aujourd'hui, hein, nous savons très bien qu'il y a le torchon, peut-on dire ainsi, brûle en tout cas entre une frange de cette parti politique et des autorités, parce que ce n'est pas le grand amour hein, auquel nous sommes habitués. Aujourd'hui, quelle attitude justement ce parti politique devrait adopter, ou même l'autre aussi, les autorités, pour qu'ensemble, les deux puissent en tout cas souffler dans le même corps.
Avant de revenir, je dirais, moi, cher ami Soumano, qu'en réalité, on a dépassé le cadre de l'opportunité de poursuivre. Quoi. Effectivement, celui pour que détient l'opportunité de poursuivre. Et une fois qu'on dit le mandat de dépôt, la poursuite est déjà engagée. Donc, on ne peut plus parler d'une opportunité de poursuivre. Dès au niveau du procureur, il ne pourra plus classer les dossiers, puis il n'y a pas plus de poursuivre. Mais une fois que le mandat est délivré, on est dans la poursuite.
Non, mais le juge d'instruction peut aussi classer le dossier sans suite. Bien entendu.
Oui, mais le procureur peut faire appel.
Oui, mais bon, après...
À ce débat, quel appel ou pourvoi, ça dépend.
Mais c'est que c'est la possibilité, là.
Voilà. Non, le juge d'instruction ne peut pas classer le dossier.
Oui, il peut faire le
procès. Voilà, il peut déclarer peut-être le non-lieu. Mais le non-lieu sera aussi... C'est au procureur maintenant de dire qu'il est d'accord ou pas avec le non-lieu. Il peut faire appel, si c'est au niveau de la première instance, il peut faire appel de ce non-lieu-là. Si c'est au niveau de la cour d'appel, par exemple, au niveau de la chambre d'instruction, le procureur général peut faire pourvoi au niveau pour la Cour suprême.
Mais tout cela peut se gérer en bonne intelligence.
Voilà, une fois que le mandat est délivré, on ne parle plus d'opportunité de poursuivre. La poursuite est engagée. Voilà, maintenant, et par rapport à la séparation des pouvoirs dont vous faites, je crois que c'est clair. Même le cas Madounba, le président de la République et le président de la transition a pesé de tout son poids pour qu'il puisse être libéré. Parce que le même jour où le mandat de dépôt a été délivré sur Madounba, il a reçu une délégation de l'UNTM à sa tête Katilé et il les a bien dit qu'il pèserait de tout son poids pour qu'il soit libéré. Au Mali, on peut parler de séparation de pouvoir, ou d'indépendance de la justice. C'est un cas flagrant.
Bon, moi, je ne prends pas les mauvais exemples. Moi, bon, je ne regarde pas les mauvais exemples.
Ce n'est pas moi qui suis auteur de ces mauvais exemples. Je vous en cite juste. Voilà.
D'accord.
Voilà. Oui, maintenant, par rapport, effectivement, moi, je suis pour que les partis politiques puissent continuer sur la même ligne. Vous savez, la politique de la chaise vide, c'est de boycotter les activités jusqu'à la libération des 11. Moi, je sais que les élections ne seront pas pour maintenant, ça c'est sûr. L'Aige les a reçus, j'ai dit techniquement c'est prêt. Et lui-même, il sait que, et excepté le référendum, le président de l'Aige, la date des élections présidentielles et des élections législatives, c'est dans ses prérogatives. C'est dans ses prérogatives. Donc, il n'a pas à dire que techniquement on est prêt. Non, il n'a qu'à fixer une date seulement. C'est dans ses prérogatives. Voilà. Mais sur le référendum, dépend du président, qui ça s'est pris en conseil des ministres. Mais les élections présidentielles, la loi électorale le dit, les élections présidentielles, les élections législatives sont de la prérogative du président de l'Aige. Qu'il fixe les dates s'il est techniquement prêt. D'accord. Lui, c'est même spécial, même s'il est prêt techniquement, il ne peut pas fixer les dates. Maintenant, ce que moi je vais dire, les partis politiques, je suis. Les accords, ceux qui ont signé l'accord du 31 mars, je suis pour la politique de la chaise jusqu'à ce que ces 11-là soient élargis. Parce que moi, j'ai dit, en réalité, on confond trop les choses. Moi, on n'est pas dans la politique ici. Moi, j'ai dit toujours, je le répète, c'est une question d'éthique et de morale. Tu ne peux pas engager des combats avec quelqu'un, ils sont sous mandat de dépôt, ils sont incarcérés, et que toi, tu puisses continuer ces activités comme si rien n'était. Non. La politique de la chaise vide, il faut continuer. Il faut être solidaire jusqu'au bout. Moi, c'est mon principe.
Solidaire jusqu'au bout, est-ce que c'est aussi votre justement lecture de la chose, la politique de la chaise vide, M. Keïta?
Comme je l'ai dit, les divergences n'ont fait que se multiplier. Depuis le dialogue intermalien, qui a plus de 3 mois, dont les recommandations sont sorties depuis, jusqu'à présent, il y a un langage de sourds. Le dialogue a du mal à décoller, jusqu'à ce que même il y a beaucoup de suspicions par rapport à cette histoire même de charte de la réconciliation nationale. Donc, il ne souffle pas du tout dans la même trompette. Et puis, pour moi, ce n'est pas quelque chose à minimiser. Depuis que ce bras de fer a pris forme, l'ADEMA a formellement mis fin à son soutien au pouvoir. L'ADEMA milite à l'opposition. Un des grands partis du pays qui fut aussi au pouvoir. Le RPM...
Et qu'est-ce que vous faites de ça?
Pendant 10 ans, l'ADEMA a quand même été aux affaires ici. Il ne peut pas y avoir d'élection que l'ADEMA n'a pas de députés. Pour avoir, comment dirais-je, un bureau parlementaire, il te faut au moins 10 députés. Chaque fois qu'il y a des législatives, au moins l'ADEMA a la trentaine. Ça, c'est chaque fois.
Okay.
Donc, ça, c'est un grand parti. Ce coup d'État, il a mis fin au régime du RPM. Le RPM aussi est là-bas. Bon, ceux qui sont mis aux arrêts, il y a la CODEM, il y a même l'ASMA. Quand ils avaient été pris, j'avais vu la CODEM quelque part.
Oui.
Autant pour moi. Mais il y a quand même quelqu'un de l'ASMA.
Oui.
Voilà.
Correra.
Justement. Donc, il y a quand même quelques grands noms. On parle aussi des grandes formations, jusqu'à ce qu'il y ait évidemment les prochaines élections, pour voir si les chiffres maintiennent ce qu'on pense.
D'accord.
Donc, pour moi, tant que ce bras de fer il perdure, ça sera compliqué. Parce que, comme on le dit, quelles que soient les initiatives, quel que soit le plan d'action gouvernemental, quelles que soient les orientations prises, ce sont des actions politiques qui ne peuvent pas se faire sans les acteurs politiques. C'est vrai qu'il y a un discrédit sur eux. Depuis 2018, le débat des acteurs démocratiques a pris forme. La classe politique est remise en cause et même parfois désavouée. Les autorités de la transition surfent beaucoup sur ça pour aller de l'avant. Et beaucoup, même dans la population, aimeraient même ne jamais revoir de politique aux affaires. Mais nous le savons tous, rien ne peut être fait sans eux.
D'accord. Rien ne peut être fait sans eux. Monsieur Sissoko, rapidement, pour finir aussi ce deuxième sujet de ce débat, comment aujourd'hui faut-il faire pour que, en tout cas, la confiance puisse s'instaurer, justement, sinon s'installer entre les acteurs politiques et les autorités de la transition?
Oui, Omar, permettez-moi, avant de répondre à cette question, de rebondir un peu par rapport à la politique de la chaise vide. Et là où je ne suis pas d'accord avec Yattara, et j'aimerais surtout prendre l'exemple sur le Sénégal, le parti PASTEF. Imaginez que si, parce que Ousmane Sonko était en prison, tout comme Diomaye Faye d'ailleurs, si le PASTEF avait décidé de ne pas présenter des candidats. Imaginez, le candidat de Macky Sall allait gagner. Donc souvent, la politique de la chaise vide, ça ne paye pas. C'est vrai, il faut continuer la pression, en tout cas faire en sorte que les camarades, vos camarades qui sont arrêtés, qu'ils puissent en tout cas être libérés. Mais je crois que de là à adopter cette politique de la chaise vide, là, ce n'est pas bon. On ne sait même pas si c'est fait à dessein pour vous pousser en tout cas à commettre cette faute-là et permettre de rouler le tapis rouge en tout cas aux candidats du pouvoir pour qu'ils puissent passer. Parce que c'est tous les grands partis pratiquement qui sont concernés par cette affaire-là. Donc, moi, je crois que par rapport à ça, moi, je suis vraiment très formel là-dessus. la politique de la chaise vide ne paye pas très généralement. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, il faudrait d'abord que les autorités comprennent les enjeux. Les enjeux, c'est quoi? C'est d'abord, nous voulons sortir de cette transition. Et pour en sortir, nous voulons, en tout cas, il faudrait que des élections transparentes, crédibles soient organisées. Il ne peut jamais y avoir d'élections transparentes tant qu'elles ne sont pas d'abord inclusives. Il ne peut jamais y avoir des élections, en tout cas, dont les résultats soient acceptés tant que les règles de jeu ne sont pas d'abord acceptées de façon consensuelle. Donc moi, je crois qu'il faut que les autorités comprennent cela. Parce qu'il ne sert à rien de peut-être d'éliminer tous les potentiels candidats et de faire en sorte qu'un seul candidat émerge du lot et que celui-là passe. S'il passe, il ne pourra pas gouverner parce qu'il y aura plus de gens à l'opposition, il y aura plus de gens pour le combattre que de gens qui vont le soutenir. Donc moi, je crois qu'il faut que les autorités comprennent cela et que pour une sortie, pour une fin heureuse de la transition, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'inclusivité, beaucoup plus d'implication de tous les acteurs. D'accord. Sinon, à ce rythme-là, franchement, ce n'est pas bon.
Très bien. Dernier sujet de ce débat, double limousage au ministère de l'Agriculture. Hein. Le ministre, justement, Lassine Dembélé, a été évincé de son poste au cours du Conseil des ministres dernier, lequel le ministre que vous voyez, le ministre sortant, hein, que vous voyez ici en image, hein, qui a été remplacé par, en tout cas, un des commis de ce ministère. Voilà. Et justement, dans la foulée, c'est aussi le PDG de la compagnie malienne de développement pour le développement des textiles, CMDT, une grande compagnie en tout cas connue, reconnue dans ce pays. Voilà, le PDG Nango Dembélé, ou notre Dembélé aussi, qui a été remercié, c'était le mercredi dernier, pour des raisons diverses. Monsieur Sissoko, je reviens vers vous. Hein. Qu'est-ce que vous savez déjà de cette affaire du ministère de l'Agriculture?
Bon, effectivement, nous avons appris, tous appris en tout cas sur les antennes de la télévision nationale, un décret qui abroge en tout cas un autre décret de nomination du ministre de l'Agriculture. Je pense bien que pour le limogeage en tout cas du PDG, c'est lors du Conseil des ministres qui a précédé justement ce décret-là. Donc pratiquement les deux ont été limogés en tout cas. Contrairement en tout cas aux différentes rumeurs qui circulent et qui faisaient état en tout cas d'une lettre de démission du ministre que je n'ai vraiment pas vu jusqu'à présent. Donc je crois qu'ils ont été limogés. Maintenant, est-ce qu'officiellement, rien n'a été dit pour en tout cas justifier justement cette décision qui a été prise par les autorités? Bon, après, chacun il va de son petit commentaire. Et ce qu'on a appris par presse interposée, c'est qu'il serait mêlé en tout cas à des détournements de fonds relatifs en tout cas à la subvention des engrais et aux pesticides. Et que entre en tout cas le PDG de la CMDT et le ministre de l'Agriculture, il se serait passé en tout cas beaucoup de choses et relatives surtout à ces engrais-là qui auraient dû en tout cas être cédés aux paysans à un prix subventionné qui est de 14 500 francs et qui a été revendu et retrouvé dans certains marchés noirs comme à Sigasso à 27 500. Et qu'après ça, le pesticide qui a été quand même pratiquement mis hors service a été utilisé et qui a eu même mort d'homme dans une zone à Kita. Donc je crois que c'est parce que le président aurait en tout cas eu écho de ça. Il a diligenté une commission pour aller vérifier sur le terrain et qu'à partir du rapport, du compte rendu de cette commission, il a pris la décision justement en tout cas de limoger ces deux cadres, en tout cas, de l'administration. Je pense que l'acte à lui-même est à saluer, franchement, parce que honnêtement, ils se sont déjà engagés, en tout cas, à lutter véritablement contre la corruption, à lutter contre, en tout cas, certaines pratiques. Je crois qu'en faisant, en limogeant, en tout cas, ces deux cadres-là, et pour des faits qui leur sont reprochés, jusqu'à présent, ils sont présumés, en tout cas, comme on le dit, innocents, jusqu'à ce que les enquêtes arrivent à terme. Mais ce qui est sûr, je ne peux que saluer et féliciter les autorités pour avoir pris cette décision.
D'accord, oui, monsieur Soumano, rapidement, hein, ce double limousage, qu'est-ce que nous devrons retenir?
Déjà, vous savez, moi j'ai beaucoup de commentaires sur ça. Déjà, vous savez, de tout temps, moi depuis qu'on était très très jeune, la CNDT a toujours été au cœur de beaucoup de critiques en termes de fait que souvent il y a des problèmes au niveau de la gestion. Ça, c'était depuis, je dis, dans les années 2000, etc. Ensuite, le ministère de l'Agriculture, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous avons, sous l'ancien régime de Ibeka, on a entendu parler du scandale des engrais frélatés. Et ensuite, maintenant, le problème qui surgit
c'est aussi des questions de pesticides. Bon, même s'ils ne sont pas frelatés, mais quand même, ça a fait emporter le ministre et puis le PDG de la CNDT. Alors, la lecture que je fais, c'est quoi? C'est que c'est Assimi d'abord que moi je plains. Pourquoi je le plains? Parce que, vous savez, quand vous êtes dans un travail de refondation d'un pays, vous avez un gouvernement où vous avez déjà un premier démissionnaire, après qui est actuellement est en prison, pour des questions encore de tout. Je sais que la présomption d'innocence, j'ai beaucoup de respect pour M. Lamine Sérou Traoré, qui est d'ailleurs un bon ami. Mais ensuite, il y a ça qui se pose. Donc, si vous avez un gouvernement où il y a déjà une démission et puis un limogeage, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est là où je dis je le plains, parce que ses collaborateurs, les plus proches collaborateurs, ne sont pas en train de lui rendre la tâche facile. Ensuite, si vous regardez le parcours des deux, le PDG de la CNDT a été quand même ministre sous un autre régime, même s'il n'a pas été ministre de l'Agriculture. Donc, et l'actuel, celui qui a été limogé, a pratiquement servi à tous les postes stratégiques au niveau de l'agriculture. Donc, c'est des connaisseurs. Cela va dire quoi? Est-ce que désormais, dans les nominations, il faudrait prendre le profil du département pour mettre les personnes à la tête de ce département? Parce qu'à priori, ça n'a pas marché. Parce que si un ancien ministre de l'Agriculture, qui est ministre de l'Élevage, qui est par ailleurs agroéconomiste, a pu, malgré son expertise, a laissé des problèmes pareils surgir à la CNDT, et qu'un ancien cadre du ministère de l'Agriculture, qui est à la tête du département et qui a des proximités avec le président, a pu laisser ces choses, ça veut dire que, véritablement, la manière de choisir, je conseillerais fortement qu'on essaie de revoir là-dessus. Et même souvent, peut-être envoyer peut-être un docteur, un médecin à l'agriculture. Peut-être ça peut amener à assainir les choses. Je ne dirais pas que les codes qui sont là ne sont pas bons, mais j'ai dit on peut tenter ça. Maintenant, ce qu'il faudrait retenir, tout ça pour la génération future, les jeunes qui nous sommes, ça ne donne pas une bonne image. Parce que, vous savez, nous avons un président jeune. Peut-être si c'était des jeunes de notre génération qui avaient fait cela, on allait dire, ah oui, la jeunesse. Mais ce n'est pas les jeunes.
C'est encore... S'ils avaient fait, est-ce que vous leur reprochez quelque chose ce soir?
Non, je dis, si on avait dit, on aurait parlé d'expérience. Okay. On allait dire, ils ne sont pas expérimentés. Mais ce n'est pas des jeunes. Ceux qui sont en cours, ce n'est pas des jeunes. Je suis désolé. La plupart sont tous à la retraite. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une mauvaise image pour nous, la jeunesse. Moi, je suis un fervent défenseur de la promotion de la jeunesse. Donc, quelque part, ça me réconforte dans ma position de dire que si des jeunes avaient été mis là, ils n'auraient pas fait ça. Peut-être qu'eux, ils auraient pensé à leur carrière. Ils auraient dit, moi, je ne vais pas me mêler dans des histoires de scandales parce que je pense à ma carrière. Mais, donc, ça veut dire, encore une fois, j'ai dit, il faut revoir le choix.
D'accord.
Hein, et améliorer le dispositif pour peut-être faire de telle sorte qu'on puisse mettre des gens qui ont plus souci de leur carrière que d'autres choses. Quoi.
Très bien. Rapidement, on me signale que nous sommes sérieusement pris par le temps, M. Keïta. Alors, il y a quand même beaucoup de rumeurs, ça et là, qui courent après ce double limogeage. On parle même des tensions, M. Keïta, entre le ministre sortant, Lassine Dembélé, qui a été limogé, comme beaucoup de gens aiment le dire, et aussi l'actuel ministre des Finances d'alors et de maintenant. Alors, M. Alousseni Sanou, qui serait quand même parti des engrais qui aurait été et qui devrait justement revenir, justement, aux agriculteurs, pratiquement, qui a été offerte par la Banque mondiale, d'après les sources que nous avons. Est-ce que vous êtes au courant de cette tension? Parce que la démission, justement, paraît-il qu'elle était en vue.
Oui, justement, je confirme, parce que moi-même, j'ai un collaborateur de ma rédaction qui travaille spécialement sur la CMDT. Et ce rédacteur, ce collaborateur-là, par A plus B, m'a bel et bien démontré que, du fait de cette tension, le docteur Nango Dembélé voulait démissionner.
De la CMDT?
Oui, mais il a été pris de court. Mais quoi qu'il en soit, on ne s'en tient qu'à ce qu'on voit, donc le factuel. C'est que le ministre et Nango Dembélé lui-même, qui fut aussi ancien ministre de l'Agriculture, ont tous été déposés le même jour. C'est qu'il y a péril dans la demeure. Moi, je le dis toujours dans ces émissions auxquelles je participe, que le Mali retienne les leçons. Sous la transition, la question même d'engrais est devenu tellement sensible que ça nous avait coûté une fois notre première place de pays phare du coton de l'or blanc. Même là encore, certaines statistiques récentes montrent que nous sommes même en troisième position. Depuis 2 ans, 3 ans, on est en train de se débattre même sur la question des engrais. Et on parle de 2021, 2022, 2024. Or,
Depuis 2016-2017, il y a eu la question des engrais frelatés. Donc finalement, même je ne me souviens même pas avoir eu de retour ou de jugement sur la question.
D'accord.
Donc ça veut dire que depuis plus de 8 ans, dans le monde rural, il y a des polémiques qui se font. Mais j'ai bien l'impression que malgré le conseil qui se tient à la présidence, là, le conseil supérieur de l'agriculture, malgré les changements d'exécutif, finalement, ceux-là qui sont dans l'administration, parce que les présidents, les ministres changent, hein,
okay,
mais les cadres ne changent pas. Mais finalement, je retiens que ces cadres-là sont de mauvaise foi. La preuve avec ces histoires et ces scandales à répétition. Donc pour moi, il serait vraiment temps qu'on aille dans une moralisation et que même que nous ayons carrément même vers des actions judiciaires.
Actions judiciaires, M. Abdallah Yattara, rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire?
Rapidement, permettez-moi d'abord de prendre 30 secondes sur l'avant-dernier sujet.
Okay,
j'ai dit qu'en réalité, la politique et le politicien bénéficient des préjugés défavorables. Et comme l'a dit Albert Einstein, il est plus facile de dématérialiser un atome qu'un préjugé. Et aujourd'hui, il faut faire la politique autrement pour pouvoir réhabiliter la politique. Je suis pour la politique de la chaise vide, parce que désormais pour moi, la politique doit rimer avec l'humanisme. Désormais pour moi, la politique doit rimer avec l'éthique et la morale. Donc vivement la politique de la chaise vide, jusqu'à ce que ces 11-là soient élevés.
Très bien, c'est votre avis.
Le secteur coton, aujourd'hui, traverse une difficulté, il ne faut pas se le leurrer. Et on parle, d'abord, l'argent des cotonculteurs était en retard. Assim l'a dit à Sigasso, les raisons pour lesquelles c'est en retard. Et on va rentrer dans une nouvelle campagne sans pour autant que peut-être la majorité des cotonculteurs soient payés. Deuxièmement, il y a l'affaire des pesticides de très mauvaise qualité et qui a même entraîné des morts sur le terrain. Il y a aussi ces 60 milliards d'engrais qui ont été offerts gratuitement par la Banque mondiale, mais qu'on voulait aussi monétiser, contrairement à l'accord cadre qu'il y a avec la Banque mondiale. Mais il y a aussi des engrais subventionnés qui devraient être vendus à 14 000, mais qu'on a retrouvés sur le marché des Sigasso et qui sont vendus à 27 500. J'ai vu l'élément à la télé et le gouverneur de Sigasso même s'est beaucoup plaint par rapport à ça. Et aujourd'hui, la conséquence c'est quoi? On est le troisième producteur mondial, le troisième producteur africain d'or aujourd'hui, derrière le Bénin et le Burkina aujourd'hui.
De coton.
Oui.
Voilà. L'or blanc plutôt.
Il faut de l'or blanc. Okay. Donc ça veut dire que le secteur traverse une véritable difficulté.
D'accord.
Alors qu'aujourd'hui, le coton et l'or sont aujourd'hui les deux principales ressources sur lesquelles on tire nos devises.
D'accord.
Donc il va falloir vraiment réformer ce secteur-là,
d'accord,
refonder ce secteur-là.
Okay.
Bon, peut-être que les solutions sont de les assises, les refondations, on ne les a pas encore.
On espère que les solutions viendront. C'est ce qu'il fallait retenir de ce débat de ce dimanche qui avait comme invité Chakoumar Soumano du baromètre. Merci en tout cas de votre présence sur ce plateau. Issoub Sissoko, PDG du groupe Alternance. Merci infiniment à vous, Idrissa Keita Idi, hein, journaliste consultant. Abdallah Yattara, consultant formateur, qui revient sur sa casquette, hein, en tout cas de parti.
Membre
du parti Yélema. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à la grosse équipe de son dirigée par M. Augustin Echoubi qui nous a aidés dans cette émission. Merci infiniment. Retrouvez-nous dès le lundi pour la rediffusion de cette émission à 10h. Une seconde diffusion est prévue pour le mardi à 22h. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. We'll be right back.